Tchekhov. Je trouve que c'est une des très grandes voix de la littérature russe, de la littérature universelle.
Claude Roy.
Mais c'est une voix qu'il n'a jamais élevée. Il n'élève pas la voix, il parle à mi-voix presque. Et ce qu'il dit est d'une telle justesse, d'une telle précision.
Ça peut pas faire de mal.
C'était un homme qui avait le sens de la justice et de la justesse. Il avait toujours cette volonté d'être exact, d'être précis et de rendre à la fois la justesse dans le ton et la justice dans le jugement.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je vous le dis tel quel, j'ai pris une décision. Mon amour pour Treplev, je vais me l'arracher du fond du cœur. Je vais me l'arracher jusqu'aux racines.
Et en faisant quoi ?
Je me marie avec Medvedenko.
Le maître d'école, vous voulez dire ?
Oui.
Je ne vois pas trop pourquoi.
Aimer sans espoir ? Attendre et attendre ? Des années durant ? Dès que je serai mariée, j'aurai autre chose à faire que de penser à l'amour. Les nouveaux soucis étoufferont tout le passé. Et n'empêche, vous savez, ça fera du changement. Mon maître d'école, ce n'est pas une lumière. Mais c'est un brave homme, et moi, il m'aime fort. Tout ça, si je vous le dis, c'est que vous êtes écrivain. Vous pouvez vous en servir. On se reprend un petit verre.
Ça ne va pas faire un peu trop ?
Allons donc. Ne me regardez pas comme ça. Il y a plus de femmes qui boivent que vous ne pensez. Une minorité boit au grand jour, comme moi. Et la majorité, en cachette. Oui, et toujours de la vodka ou du cognac. À la vôtre. Vous êtes un homme pas compliqué, vous. Ça fait de la peine vous quitter.
Moi non plus, je n'ai pas envie de partir.
Eh bien, demandez à votre dame de rester.
Non, maintenant elle ne restera plus.
Bon, alors permettez-moi de vous souhaiter tout le bonheur du monde. Et gardez-moi votre bon souvenir. Je vous suis très reconnaissante pour votre sympathie. Et puis, envoyez-moi vos livres. Avec dédicace. N'oubliez pas. Seulement, n'écrivez pas à la très honorée. Simplement à Maria. De père et de mère inconnus qui vit en ce monde, nul ne sait pourquoi. Adieu.
Nous sommes au début de l'acte 3 de La Mouette d'Anton Tchekhov. La scène se déroule dans une salle à manger encombrée de cartons et de valises. Arkadina et Trigorine, un couple d'artistes à succès, quittent ce matin le domaine familial pour retrouver Moscou. Dans toute la maison, on s'affaire, on boucle les bagages. Mais dans cette pièce, le temps est suspendu à deux petits verres. Un homme et une femme qui se connaissent peu trinquent une dernière fois ensemble. Trigorine, l'écrivain célèbre, et Masha, la fille de l'intendant du domaine. Ils vivent aux antipodes l'un de l'autre, mais s'estiment assez pour se confier en amis. Ils sont chacun en train de renoncer à leur amour. Trigorine en partant, loin d'une jeune fille dont il vient de tomber amoureux, Nina, et Masha en se résignant à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Ainsi va la vie chez Tchekhov. On accueille des nouveaux venus au domaine, de la famille venue de la ville ou des voisins s'invitant à la fête. La vie s'anime, les cœurs s'emballent et c'est déjà l'heure du départ. Est-ce parce qu'il était médecin que Tchekhov a si bien su sonder l'âme humaine, ses élans et ses angoisses ? Pourtant, rien ne prédestinait ce fils d'épicier né en 1860 dans le sud de la Russie à l'écriture. C'est d'abord la nécessité qui le pousse vers les lettres. Son père s'étant gravement endetté, le jeune étudiant en médecine passe ses nuits à écrire des récits qu'il monnaie aux journaux satiriques pour faire vivre sa famille. Un équilibre que Tchekhov lui-même résume avec humour, je le cite, « La médecine est ma femme légitime, la littérature ma maîtresse. Quand l'une m'ennuie, je passe la nuit avec l'autre. » Et bien lui en a pris à cet infidèle, puisqu'à sa mort en 1904, Tchekhov laisse derrière lui une œuvre magistrale. On lui doit notamment de magnifiques pièces dont le succès ne se dément pas. Citons entre autres La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs ou encore La Cerisaie. Ce soir, je vous propose de découvrir quelques très belles scènes de duo parmi ces textes dramatiques. Puisque l'amour est au centre des dialogues de Tchekhov, nous parlerons d'amour. Et pour ce voyage dans les terres et les lettres russes, vous l'avez entendu, j'ai le plaisir d'accueillir une amie, une immense comédienne, Virginie Colmin. Bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Pour ces lectures à deux voix, nous emprunterons les traductions françaises établies par André Markowitz et Françoise Morvan aux éditions Actes Sud, et je les salue.
Tchekhov, c'est le seul écrivain qui n'ait pas d'idéologie.
André Markowitz.
Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'idéologie personnelle. Mais quand on lit Tolstoï, quand on lit Dostoïevski, il y a une idée. Chaque personnage est porteur d'une idée. L'idéologie de Tchekhov, c'est chaque personnage. C'est en ça qu'il est absolument désarmant, parce qu'on peut dire de lui absolument ce qu'on veut, on aura toujours raison. Parce que ce qui compte, c'est absolument pas ce qu'on dit. C'est de voir comment il rend vivante la moindre chose, le moindre détail, et comment, dans le moindre détail, il y a des immensités de vie que la personne même qui est en cause ne voit pas. Tchekhov me fait l'effet d'une personne qui voit tout, qui sent tout, et qui le sent sans aménité.
Découvrons pour commencer la scène qui inaugure le théâtre de Tchekhov. Le jeune Anton n'a que 18 ans quand il se lance dans l'écriture de Platonov, ou L'absence de père, sa première pièce. Malgré ses efforts, celle-ci ne sera jamais jouée ni publiée de son vivant. Il faut dire qu'elle offre un sacré défi au metteur en scène, pas moins de 6 heures de spectacle dans sa version courte. Ce soir, nous nous contenterons de quelques extraits. Et d'abord la scène d'ouverture de Platonov, qui dit beaucoup déjà des thèmes de prédilection de Tchekhov, l'ennui et l'amour. Nous sommes dans le domaine d'Anna Petrovna, jeune veuve séduisante. Dans l'attente du déjeuner qui tarde à arriver, les invités se sont dispersés. Seule Anna et Trilietsky, jeune médecin sans finesse, se trouvent dans le salon. Pour tuer le temps, les voici qui échangent des confidences. Virginie, je vous propose donc de prêter votre voix à Anna Petrovna et je serai le petit Trilietsky, votre invité. Anna Petrovna est assise au piano, la tête inclinée vers les touches. Entre Trilietsky. Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien. On s'ennuyote.
Offrez-moi, mon ange, une cigarette. J'ai une terrible envie de fumer. Figurez-vous que je n'ai pas fumé depuis ce matin.
Tenez, faites des réserves. Vous n'aurez plus à m'embêter. On s'ennuie, Nicolas. Le spleen, l'oisiveté, le cafard. Et que faire ? Je n'en sais rien. Midi un quart. Je parie que nos invités meurent de faim.
C'est plus que probable. En ce qui me concerne, c'est effrayant ce que j'ai faim.
De vous, je ne parle même pas. Vous n'arrêtez pas de manger, vous avez toujours faim. C'est monstrueux. Un homme si petit avec un estomac si grand.
Non, oui, je m'étonne moi-même. Quand est-ce qu'on passe à table, chère madame ?
Bah, tout de suite, je crois. On n'a même pas servi le petit déjeuner. Aurons-nous, oui ou non, l'honneur de recevoir l'objet de votre flamme ?
Elle a dit que oui. Elle a donné sa parole.
En ce cas, elle devrait déjà être là. Vous... Pardonnez-moi cette question indiscrète. Avec elle aussi, c'est... comme ça ou c'est sérieux ?
C'est-à-dire ?
Sincèrement, Nikolaï Ivanovitch... C'est un ami que je vous demande, pas pour en faire des ragots. Cette Grekova, qu'est-elle pour vous et vous, qu'êtes-vous pour elle ? La main sur le cœur, sans humour déplacé, s'il vous plaît. Voyons, je vous le jure, en ami.
Ce qu'elle est pour moi et ce que je suis pour elle, ma foi, je n'en sais rien encore. Je lui rends visite, je bavarde, je l'ennuie, je fais un trou dans le budget café de sa maman, et rien de plus. J'y vais, je peux vous l'avouer, tous les deux jours, même tous les jours, parfois. Je lui raconte mes histoires, elle me raconte les siennes.
Et puis ?
Et puis rien. Ah. Ce qui m'attire en elle, au fond, c'est difficile à dire. L'ennui, l'amour, peut-être autre chose encore, allez savoir.
Alors c'est de l'amour ?
Peut-être bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'aime ou je ne l'aime pas ?
Elle est bonne, celle-là. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir.
Mmh. rencontrons donc cette fameuse Grekova dont parlaient à l'instant nos deux confidents. Nous sommes toujours chez Anna Petrovna, à la scène 9 de l'acte 2. Quelques heures ont passé, c'est désormais le soir et la fête bat son plein. Comme l'espérait Trigetsky, Grekova est finalement venue. Mais pour l'heure, ce n'est pas à lui que pense la jeune femme. L'homme qu'elle rejoint dans le jardin est un homme marié, le beau-frère précisément de Trigetsky. Ce séducteur sans vergogne, c'est bien sûr Platonov. Grekova tente non sans mal de lui faire un aveu. Vous serez Grekova, Virginie, et moi je serai Platonov.
Vous ne serez pas blessé, j'en suis sûre. Vous êtes tellement habitué à toutes sortes d'insolences qu'il serait étrange que mes paroles puissent vous surprendre.
Quoi, quoi ? Dites toujours, belle dame.
Oh, je ne suis pas belle. Me trouver belle, c'est n'avoir aucun goût. Sincèrement, n'est-ce pas que je ne suis pas belle ? Vous êtes de mon avis.
Je vous le dirai plus tard. C'est vous qui avez la parole.
Eh bien, écoutez. Soit vous êtes un homme extraordinaire, soit vous êtes une canaille. C'est l'un ou l'autre. Vous riez. C'est vrai que c'est drôle.
Elle a dit ça comme ça, la petite gourde. Non mais dites-moi un peu.
S'il vous plaît, mais...
Quelle sentence elle vous assène. Mais comment donc, la misérable ? Il l'embrasse. Une peste originale est bien mignonne.
Pardon, mais... Qu'est-ce que... Je n'ai pas dit... Pourquoi vous m'embrassez ? Je n'ai pas du tout...
Elle a parlé... Elle a étonné. Tiens, qu'elle s'est dit, je lui sors ça, je le fous droit, qu'il voit que je suis maligne. Il l'embrasse à nouveau. Mon Dieu, elle est toute perdue. Elle me regarde d'un air bête, d'où Jésus.
Vous m'aimez ? Oui ? Oui ?
Et toi, tu m'aimes ?
Si. Vous... Alors ? Oui. Tu m'aimes ? Sinon, tu ne ferais pas ça. Tu m'aimes ?
Pas le moins du monde, ma jolie. Je n'aime pas les idiotes. Je suis méchant, hein ? Je n'aime qu'une petite voix. Mais juste pour passer le temps. La voilà toute pâle. Ses yeux lancent des éclairs. Tu sais à qui tu parles ?
Vous vous moquez de moi. C'est ça.
Je serais capable de m'en allonger une.
J'ai ma fierté. Je ne voudrais pas me salir les mains. Je vous ai dit, monsieur... que vous étiez soit un homme extraordinaire, soit une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise. Non, je ne pleurerai plus maintenant. Je suis heureuse d'avoir fini par découvrir quel personnage vous êtes.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Каким ты был, таким остался орел степной, казак лихой. Зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Свою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не могла. Но я жила, жила одним тобою. Я всю войну тебя ждала. Но я жила, жила одним тобою. Я всю войну тебя ждала. Каким ты был, таким ты и остался, но ты и дорог.
Laissons là le jardin et ses confidences, laissons là Platonov et mettons le cap sur une autre demeure, celle des trois sœurs. Pour écrire cette pièce, créée en 1901, Tchekhov se serait inspiré de sa rencontre avec les sœurs Zimmermann, rencontrées lors de son voyage vers l'île de Sakhalin une dizaine d'années auparavant. Mais à partir de ce matériau réaliste, il s'attache surtout à dépeindre la solitude et la mélancolie dont souffrent ces trois personnages féminins. Depuis leur maison provinciale, Olga, Masha et Irina n'ont qu'un rêve, retrouver Moscou où elles ont grandi, Moscou et son animation. Au début de Platonov, souvenez-vous, on s'ennuyote. Mais chez les trois sœurs, pièce écrite 20 ans plus tard, l'ennui a cédé la place à une angoisse obsédante. À l'acte 3, Irina, la plus jeune des trois sœurs, confie à son aînée Olga son profond désespoir. « Vous serez Olga, Virginie, et je serai Irina. » Irina sanglotant bruyamment. « Je ne peux plus. »«
Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ma chérie ?»«
Tout est parti, mais où ? Où ça ? Oh mon Dieu ! Mon Dieu, j'ai tout oublié. Tout s'est mélangé dans ma tête. Comment dit-on fenêtre ou plafond en italien ? Tiens, je me souviens même plus. J'oublie tout, j'oublie jour après jour, et la vie s'en va. Jamais elle ne reviendra plus, et jamais, jamais nous ne partirons à Moscou. Je vois bien que nous ne partirons pas.
Ma chérie.
Oh, je suis malheureuse. J'ai déjà 24 ans, il y a déjà longtemps que je travaille, et mon cerveau s'est desséché. J'ai maigri, enlaidi, vieilli, rien. Pas la moindre satisfaction. Le temps qui passe est toujours l'impression qu'on s'éloigne de la vraie vie, de la vie merveilleuse, qu'on s'en éloigne de plus en plus pour s'en aller vers une espèce de gouffre. Je suis désespéré. Comment suis-je encore en vie ? Comment ne me suis-je pas encore suicidée ? Je comprends pas.
Ne pleure pas, ma petite fille, ne pleure pas. J'ai mal.
Je ne pleure pas. Ça suffit. Bon, voilà, je ne pleure plus. Ça suffit.
Ma chérie, je te le dis en sœur, en amie. Si tu veux un conseil, marie-toi avec le baron Tusenbach. Après tout, tu le respectes, tu l'estimes sincèrement. C'est vrai qu'il n'est pas beau, mais... Il est si honnête, si pur. On ne se marie pas par amour, n'est-ce pas ? Mais pour accomplir son devoir, simplement. Moi, du moins, c'est ce que je pense. Et je me marierai, même sans amour. Le premier qui me demanderait, je l'épouserai, peu importe. Pourvu que ce soit quelqu'un de bien, même un vieil homme, je l'épouserai.
Ma gentille, ma chérie, je respecte, j'estime le baron. C'est un homme merveilleux. Je me marierai avec lui. J'y consens. Mais partons à Moscou. Je t'en supplie, partons. Moscou, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Partons, Olia, partons.
Ce qu'il y a de plus beau en Tchekhov, c'est le féminin de la sensibilité, le féminin de l'imaginaire.
Jacques Lassalle.
Cette façon qu'ont les femmes de survivre à l'épreuve, parce qu'elles sont toujours du côté de la nature, elles sont toujours du côté de la vie et de la survie.
Face à l'intolérable angoisse de l'existence, la fuite semble souvent la seule issue possible au personnage de Tchekhov. Preuve en est encore avec Ivanov, la deuxième pièce du dramaturge, écrite en 2 semaines seulement dans le sillage de Platonov. Tout comme la Benjamin des trois sœurs, Ivanov, le rôle-titre, incarne un mal de vivre persistant. Mais contrairement à Irina, qui peut encore espérer tromper le vide par un mariage de raison, notre homme a perdu toute foi dans le bonheur conjugal. Marié depuis 5 ans à Anna, gravement malade, il n'éprouve plus d'amour pour sa femme. Nous voici à la scène 6 du premier acte, chez Ivanov et Anna. Le soir descend, nous dit Tchekhov. Et pour échapper à l'angoisse qui l'étreint, Ivanov s'apprête à rejoindre une maison voisine où l'on fête les 20 ans de la jeune Sacha. Vous êtes Anna et je suis Ivanov. Bon, adieu Anya, je reviens pour 1 heure.
Kolia, mon chéri, reste à la maison.
Oh, ma petite colombe, ma chérie, mon infortunée, je t'en supplie, ne m'empêche pas de m'en aller tous les soirs. C'est cruel, c'est injuste de ma part, mais laisse-moi commettre cette injustice. À la maison, je me sens affreusement oppressée. Dès que le soleil se cache, l'angoisse se met à me serrer le cœur. Et quelle angoisse! Ne me demande pas d'où elle vient, je ne le sais pas moi-même.
Je te le jure par le vrai Dieu, je ne sais pas. Ici, c'est l'angoisse. Et quand on est chez les voisins, là-bas, c'est encore pire. On rentre de là-bas, ici, c'est à nouveau l'angoisse. Et toute la nuit, pareil, c'est à désespérer.
Kolia, si tu restais, on parlerait comme avant. On dînerait, on lirait. Reste. Je ne te comprends pas. Ça dure depuis toute une année déjà. D'où vient que tu as changé ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et pourquoi ne veux-tu pas que je sorte avec toi le soir ?
Mais si tu y tiens, eh bien, je vais te le dire. C'est un peu cruel, mais il vaut mieux le dire. Quand l'angoisse me torture, je me mets à ne plus t'aimer. Et c'est toi que je fuis à ce moment-là. Bref, j'ai besoin de partir de la maison.
L'angoisse ? Je comprends. Tu sais quoi, Kolia ? Essaye comme avant de chanter, de rire, de te fâcher. Reste, on va rire, on va boire de la liqueur. Et ton angoisse, en une minute, on l'aura chassée. Tu veux ? Je vais chanter. Ou alors, allons dans ton bureau, dans la pénombre, comme avant, et tu me parleras de ton angoisse. Il y a une telle douleur dans tes yeux. Moi, je les regarderai. Je pleurerai et ça nous soulagera tous les deux. Ou bien, Kolia, comment c'est ? Les fleurs renaissent au printemps, mais la joie ne vient pas. C'est ça. Allez, vas-y. Vas-y.
Prie pour moi, Anne. Ivanov est loin de se douter que cette nuit va bouleverser sa vie. Parvenu chez ses voisins, les Lebedev, notre homme se laisse séduire par la jeunesse et la vitalité de Sacha, dont on fête l'anniversaire. Mais la fragile Anna, venue à l'improviste se joindre aux réjouissances, surprend l'étreinte de son mari et de la jeune femme. La scène suivante se déroule quelques semaines après. Inquiète du silence d'Ivanov et bien décidée à lui parler, Sacha se rend chez le couple. Nous sommes à la scène 6 de l'acte 3. Je serai toujours Ivanov et vous serez cette fois-ci Sacha, Virginie. Sacha, c'est toi ?
Oui, c'est moi. Tu ne m'attendais pas ? Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir ?
Sacha, au nom du ciel, c'est imprudent. Ta présence peut avoir un effet terrible sur ma femme.
Ne me verras pas, je suis passée par l'entrée de service. Je repars tout de suite. Je m'inquiétais. Tu vas bien ? Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir ?
Ma femme est assez offensée comme ça, elle est presque en train de mourir et toi tu viens ici, Sacha, c'est inconséquent et c'est inhumain.
Qu'est-ce que je devais faire ? 2 semaines que tu ne viens plus chez nous, que tu ne réponds pas aux lettres, je n'en peux plus. J'avais l'impression qu'ici tu souffrais d'une façon insupportable, que tu étais malade, que tu étais mort. Je n'ai pas eu une seule nuit de repos, je repars tout de suite, dis-moi juste une chose, tu vas bien ?
Je m'épuise moi-même, les gens n'en finissent pas de m'épuiser. Je suis simplement à bout de force. Et là encore, toi, comme c'est malsain, comme c'est anormal, Sacha, comme je suis coupable.
Comme tu aimes dire des paroles effrayantes et pitoyables. Tu es coupable. Oui ? Tu es coupable ? Bon, alors dis-moi, de quoi ?
Je ne sais pas.
Ce n'est pas une réponse. Tout pécheur doit savoir en quoi il a péché. Tu es coupable de ne plus aimer ta femme ? Peut-être, mais l'homme n'est pas maître de ses sentiments. Toi, tu ne voulais pas cesser de l'aimer. Tu es coupable de ce qu'elle m'ait vu en train de te faire une déclaration ? Mais toi, non, tu ne voulais pas qu'elle le voie.
Et ainsi de suite. Il a aimé, il a cessé d'aimer, il n'est pas maître de ses sentiments. Tout ça, ce sont des lieux communs, des phrases toutes faites qui ne sont d'aucun secours. Tout notre roman, c'est un lieu commun. Usé. Il a perdu courage, il s'est coupé de ses racines. Elle est apparue, elle, avec une âme énergique, forte. Elle lui a tendu une main secourable. C'est bien joli dans les romans, mais dans la vie...
Dans la vie, c'est pareil.
Je vois, tu la comprends avec finesse, la vie, hein. On devrait être plié de rire devant mes pitreries. Et toi, au secours, le sauver, accomplir un exploit. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière que vous avez toutes... Tant que l'homme est en bonne santé, fort et joyeux, vous ne lui prêtez aucune attention. Mais dès qu'il commence à se laisser rouler au bas de la pente, qu'il se met à pleurer misère, vous vous jetez à son cou.
Être l'épouse d'un homme fort et courageux, est-ce donc pire qu'être la garde malade de je ne sais quel raté pleurnichard ?
C'est pire.
Pourquoi donc ?
Il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. Les jeunes filles aiment mieux les ratés que les chanceux. Parce que ce qui les séduit toutes, c'est un amour actif. Tu comprends ? Actif. Les hommes sont pris par leurs affaires, c'est pourquoi l'amour pour eux reste au troisième plan. Parler avec leur femme, se promener avec elle au jardin, passer un moment agréable, puis verser une larme sur sa tombe. Voilà tout. Alors que pour nous, l'amour, c'est la vie. Je t'aime. Ça signifie que je rêve à la façon dont je te guérirai de ton angoisse, dont j'irai avec toi à l'autre bout du monde. Toi, tu gravis une montagne, moi je gravis la montagne. Toi, tu tombes dans un ravin, moi aussi je tombe dans un ravin. Pour moi, par exemple, ce serait un grand bonheur de recopier tes papiers à longueur de nuit, de rester veillé à longueur de nuit à ce que personne ne te réveille, ou de faire 100 verstes à pied avec toi. Plus il demande de peine, plus l'amour est fort. C'est-à-dire, tu comprends, on le ressent plus fort.
L'amour actif.
C'est de la perversion, ça. Une philosophie de jeune fille. À moi, peut-être que ça ne doit être comme ça. Va savoir. Ma petite fille, ma gentille. Comme tu es amusante. Et moi, quel butor ridicule je fais à pleurer misère à longueur de journée. Mais va-t'en, Sacha. Nous me sommes oubliés. Toujours est-il que chez Tchekhov, les hommes sombres attirent les femmes. Est-ce comme le suggère la jeune Sacha, parce qu'ils appellent un amour absolu ? Tchekhov nous en donne un nouvel exemple dans sa pièce « Oncle Vania », créée en 1899 par Stanislavski, l'immense metteur en scène.
Oncle Vania, c'est cet homme qui ne peut pas donner sa mesure.
Elsa Triolet.
Tout ce qu'il peut entreprendre est d'avance voué à l'échec. Parce qu'il est étouffé dans une sorte de marécage dans lequel vivaient tous les gens de sa qualité qui, devant ses écuries de Gias, ne pouvaient rien faire que de se laisser couler.
L'action se déroule dans la propriété d'un professeur à la retraite, Serebriakov, qui impose à toute sa famille son vieil âge et ses caprices. Appelé à la rescousse pour soigner le professeur, le médecin, Astrov, reste quelque temps au domaine. Comme toujours chez Tchekhov, qui n'oublie pas sa profession première, les médecins font presque partie de la famille. Et Sonia, la fille de Serebriakov, ne reste pas insensible à l'homme de science. Aussi désabusé soit-il. Nous sommes à l'acte 2 dans la salle à manger, c'est la nuit. Sonia vient de surprendre Astrov et son oncle en train de s'enivrer. Elle propose au médecin de manger un morceau avant qu'il ne reparte prendre la route. Vous interpréterez Sonia, Virginie et moi, Astrov, le médecin misanthrope.
Il n'y a personne ici. On peut parler franchement. Vous savez, il me semble que je ne survivrai pas un mois chez vous. J'étoufferai dans cette atmosphère.
Votre père enfoncé dans sa goutte et dans ses livres, l'oncle Vania dans sa neurasthénie, votre grand-mère, et pour finir, votre belle-mère.
Quoi, ma belle-mère ?
Elle est splendide. Pas le moindre doute, mais tout ce qu'elle fait, c'est manger, dormir, se promener, nous tenir sous le charme de sa beauté, voilà tout. Elle n'a aucun devoir, ce sont les autres qui travaillent pour elle. C'est ça, non ? Et une vie oisive ne peut pas être pure. Du reste, peut-être que je suis trop sévère. Je ne suis pas satisfait de la vie, comme votre oncle Vania. Et nous devenons des vieux schnocks tous les deux.
Parce que vous êtes insatisfait de la vie ?
La vie en général, je l'aime. Mais notre vie à nous, provinciale, russe, petite bourgeoise, je ne peux pas le supporter. Mais je la méprise de toutes les forces de mon âme. Quant à ma vie personnelle, ma vie à moi, eh bien réellement, il n'y a rien de bien en elle. Vous savez, quand vous marchez par une nuit noire dans la forêt, et qu'en même temps, il y a une petite lumière qui brille dans le lointain, vous ne remarquez ni votre fatigue, ni l'obscurité, ni les ronces qui vous frappent le visage. Je travaille comme personne dans le district. Le destin me frappe sans cesse. Parfois, je souffre d'une façon insupportable, mais je n'ai pas de petite lumière dans le lointain. Je n'attends plus rien du tout pour moi. Je n'aime pas les gens. Il y a longtemps que je n'aime plus personne.
Personne ?
Personne. Les paysans sont pareils, tous arriérés. Ils vivent dans la crasse. Mais les gens cultivés, il est difficile de s'entendre avec eux. Ils fatiguent.
Ah, oh, tous autant qu'ils sont, nos beaux amis, ils pensent petitement. Ils sentent petitement. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En un mot, ils sont bêtes. Et ceux qui sont un peu plus éveillés, ceux qui comptent un peu plus, ils sont hystériques, rongés par l'analyse, la réflexion. Ils gênent, ils haïssent, ils calomnient maladivement. De rapport immédiat, pur, libre, à la nature et aux gens, il n'y en a plus. Plus du tout.
Non, je vous le demande, je vous en supplie, ne buvez plus.
En quel honneur?
Ça vous va tellement mal. Vous êtes gracieux. Vous avez une voix si tendre. Plus même, vous, plus que tous ceux que je connais, vous êtes splendide. Pourquoi voulez-vous ressembler aux gens banals qui boivent et qui jouent aux cartes? Oh, ne faites pas ça, je vous en supplie. Vous dites toujours que les gens ne créent pas, qu'ils ne font que détruire ce qui leur a été donné par le ciel. Pourquoi? Mais pourquoi vous détruisez-vous vous-même? Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vous en supplie. Je vous en conjure.
Je ne boirai plus.
Donnez-moi votre parole.
Parole d'honneur.
Je vous remercie.
Basta. Je suis dessoulé. Vous voyez, je suis parfaitement lucide. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Je dis, mon temps est déjà passé, il est trop tard pour moi. J'ai vieilli. Je me suis usé au travail. Je suis devenu un rustre. Mes sentiments se sont émoussés et, semble-t-il, je ne pourrai plus m'attacher à quelqu'un. Je n'aime personne et je n'aimerai plus. Ce qui me touche encore, c'est la beauté. À ça, je n'en suis pas indifférent. Il me semble que votre belle-mère, Elena Andrievna, tiens, si elle voulait, elle pourrait me faire tourner la tête en un jour. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'attachement.
Dites-moi, Mikhail Lvovitch, si j'avais une amie ou une petite sœur, et si vous appreniez qu'elle... Enfin, admettons, qu'elle vous aime, qu'est-ce que ça vous ferait?
Je ne sais pas. Sans doute rien. Je lui ferais comprendre que l'aimer, je ne peux pas. Et puis, c'est pas ça que j'ai dans la tête. C'est bien beau tout ça, mais si je veux partir, c'est l'heure. Adieu ma colombe. Sans quoi, comme ça, on en aurait jusqu'au matin.
André Markovitch, traducteur.
On s'est rendu compte que Oncle Vania était écrite sur ce qu'on appelle des motifs, des répétitions de mots, qui sont diffusés chez tous les personnages, et dans plein de sens différents. Et dont on peut dire, en quelque sorte, que Oncle Vania est une pièce sur ces mots-là. Dans Oncle Vania, il y a deux mots essentiels. C'est le mot prekrasny, qui veut dire magnifique, splendide, ce qu'on veut, et le mot poshly, qui veut dire banal, vulgaire, etc. Et ça, c'est tous les personnages se répètent ces mots-là, se renvoient, se donnent ces mots-là. En quelque sorte, Oncle Vania est une pièce sur le fait que la vie est à la fois splendide et banale, ou banale et splendide, en même temps.
L'amour, selon Tchekhov, ne serait-il rien d'autre qu'un jeu cruel? C'est en tout cas ce que semble suggérer le dramaturge un peu plus loin dans cette même pièce. Peu après cet échange avec Astrov, Sonia confie à sa belle-mère Elena, la jeune épouse de son père, son amour pour le médecin. Elena se propose alors d'intercéder en sa faveur. La voici donc, à l'acte 3, sur le point d'interroger le médecin, sans se douter de la tournure que les choses vont prendre. Vous êtes Elena Virginie et je suis à nouveau Astrov. C'est à vous.
Pardonnez-moi, je dois vous faire subir un petit interrogatoire et je suis un peu gênée. Je ne sais pas par où commencer.
Un interrogatoire?
Oui, un interrogatoire, mais assez innocent. Nous parlerons en honnêtes gens, en bons amis, sans détour. Nous parlerons et puis nous oublierons le sujet de notre conversation. Oui?
Oui.
Il s'agit de ma belle-fille, Sonia. Elle vous plaît?
Oui, j'ai de l'estime pour elle.
Elle vous plaît en tant que femme?
Non.
Vous n'avez rien remarqué?
Rien.
Vous ne l'aimez pas? Je le vois dans vos yeux. Elle souffre. Comprenez cela et cessez de venir ici.
Ma vie est faite et puis je n'ai pas le temps. Quand voudriez-vous que...
Quelle conversation désagréable. Je suis si émue à croire que je viens de porter un poids d'une tonne. Bien, Dieu soit loué, c'est fini. Oublions, comme si nous n'avions pas parlé du tout, vous et moi, et partez. Vous êtes un homme intelligent, vous comprenez.
Si vous me l'aviez dit il y a un mois ou deux, j'aurais peut-être encore pu réfléchir. Mais maintenant... Et si elle souffre, alors... Bien sûr, il y a seulement une chose que je ne comprends pas. À quoi vous servait-il cet interrogatoire? Vous êtes une rusée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Une rusée. Mettons que Sonia souffre, je l'admets volontiers, mais à quoi est-ce qu'il rime votre interrogatoire? Permettez, ne prenez pas cet air surpris, vous savez parfaitement pourquoi je viens ici tous les jours. Pourquoi et pour qui je viens, vous le savez parfaitement. Ma petite carnassière, ne me regardez pas comme ça, je suis un vieux corbeau.
Carnassière? Je n'y comprends rien du tout.
Ma jolie belette, ma toute soyeuse. Il vous faut des victimes. Voilà un mois entier que je ne fais plus rien, j'ai tout abandonné, je vous cherche avidement. Et vous, c'est affreux ce que ça vous plaît. C'est affreux. Voilà, ça y est, je suis vaincu. Vous le saviez même avant cet interrogatoire, je me rends. Prenez, mangez.
Mais vous êtes fou.
Vous êtes timide.
Oh, je suis meilleure, je suis plus noble que vous ne croyez. Je vous le jure.
Je partirai aujourd'hui. Je ne reviendrai plus, mais... Où est-ce que nous allons nous voir? Dites vite, où? Cruelle ironie que nous ménage la Tchekhov. L'acte 3 d'Oncle prend fin dans une grande confusion. Outragée par les déclarations pressantes d'Astrov, Elena souhaite partir au plus vite. Son mari, dans l'intervalle, annonce son intention de vendre le domaine, sans se soucier du destin de Sonia et de l'oncle Vania, qui le gèrent depuis des années. Écœuré par l'égoïsme du professeur, Vania, pris de furie, tente de le tuer. L'acte 4, le dernier d'oncle Vania, est celui des réconciliations et du départ. Le domaine, finalement, ne sera pas vendu. Sur cette promesse, le professeur et Elena reprennent la route de la ville. Astrov, le médecin, repart également, sans que Sonia ne sache rien de son désir pour Elena. Restés dans la propriété, Sonia et oncle Vania doivent de nouveau s'accommoder de leur solitude. Voyons comment la jeune femme, dans la dernière tirade de la pièce, tente de réconforter son oncle. Je serai donc Vania et vous serez Sonia, Virginie. Ils sont partis. Ma petite fille, comme j'ai le cœur lourd. Oh, si tu savais comme j'ai le cœur lourd.
Mais que faire? Il faut vivre. Nous allons vivre, oncle Vania, toi et moi. Nous allons vivre une longue, longue série de jours et de longues soirées. Nous allons supporter patiemment les épreuves que le destin nous enverra. Nous allons travailler pour les autres, maintenant et plus tard, quand nous serons vieux, sans connaître de repos, et quand notre heure sera venue, nous mourrons docilement, et là-bas, de l'autre côté du tombeau, nous dirons combien nous avons souffert, combien nous avons pleuré, combien nous avons eu la vie amère, et Dieu aura pitié de nous. Et toi et moi, mon oncle bien-aimé, nous verrons une vie lumineuse, splendide, pleine de grâce, et nous nous réjouirons, et en nous retournant sur nos malheurs de maintenant, nous aurons un sourire de compassion, et nous nous reposerons. Je crois, mon oncle, je crois avec ardeur, passionnément. Nous nous reposerons. Mon pauvre oncle Vania, tu pleures. Tu n'as pas eu de joie dans ta vie, mais... Attends un petit peu, oncle Vania, attends. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons.
Все серо вокруг, летят облака. Луна уж зашла. Мой мир красоты подарю я ему. Вместе мы с неба достанем луну, где солнце, как в шаль, свернем в облака, где он, мой король, навсегда, на века.
Tchekhov, qui tenait à écrire des comédies, n'aurait sans doute pas souhaité conclure ce parcours sur ces notes tristes. Je vous propose donc, en guise d'épilogue, d'entendre la merveilleuse Lyubov, l'héroïne de La Cerisée.
Quel est le secret de La Cerisée ? Qui raconte quoi, au fond ?
Georges Lavaudan.
On pourrait presque dire que ça raconte rien, parce que c'est ce thème traditionnel des gens un peu inconscients, ne se rendent pas compte du bonheur dans lequel ils vivent, possède une propriété absolument magnifique, ne s'en occupe pas, et petit à petit le monde réel grignote leur espèce d'insouciance insupportable. Et finalement, cette merveilleuse propriété sur laquelle ils vivent, dans laquelle ils vivent, avec cette cerisée qui est pratiquement dans tous les dictionnaires, tellement elle est belle, ben voilà, elle est vendue sans qu'ils aient levé le petit doigt. On pourrait dire ça, c'est comment l'insouciance, si vous voulez, mène au drame, mais dans le fond, sans qu'aucun des protagonistes, à un moment, ne souhaite vraiment trouver une solution. Il y a une chose merveilleuse qui est de pousser, justement, cette espèce de, j'allais dire, de refus de faire quoi que ce soit.
On ne pouvait pas faire ce voyage russe sans mentionner cette dernière pièce de Tchekhov, immense succès à sa création en 1904, La Cerisée, sa comédie en quatre actes. Tchekhov rêve d'en faire un vaudeville, mais fidèle à ses thèmes de prédilection, il nous offre d'abord une pièce magnifique sur la perte. Lyubov Andreevna, aristocrate ruiné, doit se résoudre à vendre son domaine et sa précieuse cerisée. Nous sommes à l'acte 3, quelques heures précisément après la vente prévue aux enchères, mais encore dans l'attente des nouvelles de la ville. Et tandis que la cerisée vit ses dernières heures, Lyubov, encore incertaine de son sort, tient à ce que la fête dure le plus longtemps possible. Dans le salon, la musique bat son plein, les invités dansent, mais au milieu de la liesse, Lyubov se confie à Trofimov, dit Petia, un jeune étudiant ami de la famille. Virginie, je vous laisse le mot de la fin.
Les musiciens ne sont pas venus au bon moment. Le bal non plus, nous ne l'avons pas fait au bon moment. Enfin, ça ne fait rien. C'est mon destin qui se décide aujourd'hui, mon destin. Savoir au moins si le domaine est vendu. Le malheur me paraît tellement invraisemblable que j'en viens même à ne plus savoir que penser, je m'y perds. Je pourrais me mettre à crier, faire une bêtise. Sauvez-moi, Petia, dites-moi quelque chose, dites.
Qu'il ait été ou non vendu aujourd'hui, le domaine, quelle importance ? C'en est fini de lui depuis longtemps, il n'y a plus à revenir en arrière, tous les ponts sont coupés. Apaisez-vous, ma bonne amie, il ne faut pas se leurrer, il faut, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, regarder la vérité en face.
Quelle vérité ? Vous voyez où sont la vérité et le mensonge ? Et moi, à croire que j'ai perdu la vue, je ne vois rien ? Vous résolvez tous les problèmes avec courage. Mais dites-moi, mon bon, n'est-ce pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas eu le temps de souffrir encore d'un seul de vos problèmes ? Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère. Mon grand-père, j'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la cerisée. Et s'il faut décidément vendre, eh bien qu'on me vende avec la cerisée.
Vous le savez bien, je compatis de toute mon âme.
Mais c'est pas ça ! C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut être un homme. À votre âge. Il faut comprendre les gens qui aiment. Et puis, il faut aimer soi-même. Il faut tomber amoureux.
Comment l'écrivain regarde-t-il l'homme ?
Georges Simenon.
En essayant d'abord de sentir ses faiblesses. Ce ne sont pas les points de force qu'il faut chercher chez l'individu, ce sont les faiblesses. C'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un pour sa force, on aime quelqu'un pour ses faiblesses. Et un écrivain, il est toujours en vie. Depuis l'âge de 12 ans, C'est Tchekhov, parce qu'il avait l'avantage et d'être un énorme écrivain, un très grand écrivain, et d'être un médecin. Et alors il m'a appris peut-être une certaine sensibilité, une certaine approche de l'homme, qui est un petit peu, en effet, comme vous disiez tout à l'heure, celle du médecin, que je ne suis pas malheureusement, mais celle de celui qui essaye de comprendre. Et essayer de comprendre aussi bien les petites tares physiques que les petites tares morales.
Ça peut pas faire de mal.
Merci infiniment Virginie pour cette émission. Cette émission justement a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Richard Dufour et Maïwenn Lejouant. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousse-Liquois, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.